Bonjour à tous. C'est un conte médiéval que je vous invite à découvrir cette semaine. Le premier roman de T.S. que l'auteur lui-même m'a permis de découvrir après m'avoir contacté par mail. Je l'ai reçu en janvier et me suis mise à la lecture. La toile de fond de l'histoire était intéressante, l'intrigue aussi. Cependant, j'avais beaucoup de mal à entrer dedans. Son écriture manquait de fluidité et certains mots choisis ou termes utilisés me semblaient inappropriés. Je ne pouvais décemment ni vous inviter à lire ce roman tel quel, ni en faire la promotion qui aurait desservi l'auteur. Nous avons donc communiqué par mail, dans un échange bienveillant et constructif. Il a pris mes remarques avec grande humilité et récemment, après plusieurs mois de retravail, m'a proposé de me pencher sur sa nouvelle édition. Et quelle agréable surprise! J'ai plongé dedans comme dans un grand bain. Son travail est remarquable, son écriture est devenue fluide, les mots choisis, parfois emprunts au langage soutenu et légèrement désuet, collent à merveille avec l'époque choisie. Ce livre, À travers l'autre monde, est le premier roman de T.S. Il n'est pas parfait, mais les productions à venir bénéficieront à coup sûr d'une expérience acquise et d'une grande volonté de travail. T.S., c'est Taylor Samba, né en 1990 en région parisienne de parents congolais. Depuis son plus jeune âge, l'art et la culture le passionnent. Après l'obtention de son bac, il entre en fac à Paris 8 pour parfaire ses connaissances en art, puis Paris 13 dans les métiers du texte et de l'image. C'est à ce moment qu'il débute l'écriture du roman que je vous propose aujourd'hui, édité chez Z4 Éditions. Sa plume continue de courir sur le papier pour proposer prochainement un roman d'anticipation. Voici donc l'histoire de « À travers le monde » de T.S. Bien loin dans des contrées inconnues, il existe une alliance entre les différents pays limitrophes de la région. Le roi Thérode est très populaire, mais depuis son remariage avec Isabelle, il s'éloigne de son peuple et consent à suivre les conseils de sa nouvelle épouse qui n'est mue que par l'ambition du pouvoir. Sa fille, Léonia, est blessée par cette attitude de soumission. Anar, lui, est roturier orphelin. Éduqué par son parrain apothicaire, il est confié à un chevalier à la loyauté sans faille. Son but est de le faire adouber par son roi, afin qu'il devienne à son tour un chevalier digne de confiance. Lors d'un tournoi qui montre les failles d'Anar dans ce grand métier qu'est la chevalerie, le jeune homme est blessé. Pendant l'attroupement autour de la tente où il est déposé, le roi Thérode se fait assassiner. Le criminel est arrêté et l'affront est imputé aux Balkans, peuple voisin qui vient de ruiner la paix instaurée, un travail de tant d'années. Mais Léonia, malgré le chagrin, s'enquiert de la vérité auprès de l'homme incarcéré qui crie au complot. Il a la preuve que le crime est fomenté par la famille royale. Léonia se doute que sa belle-mère n'est pas étrangère à cette cabale, mais n'a pas assez de preuves pour révéler son intime conviction. Naturellement, le frère du roi défunt devient l'héritier de la couronne, mais il tombe malade très rapidement et dans la pénombre, c'est Isabelle qui prend les rênes du royaume. Mais cela ne lui suffit pas, elle veut le pouvoir absolu. Elle engage donc un équipage de marins dans lequel est enrôlé le jeune Anar dont le cœur bat pour la belle Léonia, qui ressent elle aussi des attirances pour le jeune homme. La troupe part en mer à la recherche de la dague de la connaissance, perdue depuis des siècles et qui permettra à Isabelle de tenir le monde sous son joug. L'équipage s'était réfugié sur une île au nord d'Ilosia. Assis autour d'un feu, il mangeait du bouillon gras, dégustait la viande qu'il s'était procurée grâce à la vente des marchandises. Des bouteilles vides traînaient à leurs pieds. Pour eux, ce fut un festin. Tous savouraient cette quiétude où rires et joies s'entremêlaient, oubliant dans l'instant présent leurs incertitudes. Chacun avait néanmoins conscience des dangers à venir. Nul ne reverrait la terre ferme de sitôt. Anar lui-même leur fit part de ses préoccupations quant à la femme qui hantait ses songes, ainsi que sa volonté concernant la dague. Il prenait au sérieux la mise en garde. Les Érosiens avaient fait de l'amour leur principe de vie. Pour s'épanouir, il fallait vivre de passion et la dague symbolisait leur désir. Pour Anar, le sort du plus grand nombre valait plus que ses intérêts. Voulant échapper au chaos, il renonçait à l'objet divin. Il espéra que nul ne puisse le saisir, quitte à perdre sa liberté. Les jours passèrent, la froidure fit oublier la chaleur de l'été. Anar, les bras croisés sur le rebord du navire, goûtait la quiétude de la mer lorsqu'il crut apercevoir une forme à l'aspect insolite. Puis plus rien. Il s'obstina pourtant et découvrit, flottant à la surface, plusieurs corps inertes gonflés par l'immersion dans l'eau. Il appela les autres. Hébétés par la peur, les visages devinrent blêmes. « Qu'est-ce que cela signifie ?» dit l'un d'eux. « Que c'est le sort qui échoit à ceux qui convoitent la dague de la connaissance ?» répondit Naos. Nous arrivons au terme de notre voyage. Désormais, nous devons braver la mort et les ténèbres ou nous soumettre. » Plus tard, sur l'île et après bien des dangers, ils décidèrent de se séparer. Se dispersèrent dans les souterrains à la recherche de la dague. Dans la précipitation, Anar trébucha et se trouva entraîné dans une pente raide. Autour de lui, des parois rocheuses et des galeries. Aucun obstacle, aucun bruit. Même les odeurs pestilentielles se dissipaient. Seul, il se désespéra d'avoir perdu ses compagnons. Une roche se fracassa au sol. Anar se leva d'un bond et s'engouffra dans une nouvelle galerie. Le passage semblait le mener à un lieu dérobé. Dans l'antre, il fut impressionné par la blancheur de la chaux, par l'abondance de concrétions qui s'étaient accumulées. Il fut attiré par une vive lueur bleue. Ses pas le portèrent vers le point où émanait la clarté, jusqu'à une dalle sur laquelle était posée la dague de la connaissance. Émerveillé, il la contempla longuement. Sa lame tranchante et effilée était façonnée dans un acier incomparable. Le manche, en bois précieux, d'une couleur noire bleutée, était incrusté d'une figure de lion en nacre. Au bout du manche, un anneau d'argent. Un lion. Lentement, il souleva l'objet divin, l'admira à nouveau. Lui, Anar, tenait en sa possession le bien que le monde entier convoitait. Il ferma les yeux. C'était comme un fluide qui se répandait au plus profond de son corps. Un savoir inattendu se propagea en lui. Son esprit devint plus réceptif. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il prit conscience de la singularité de l'objet et voulut davantage le protéger. Alors qu'il cherchait son chemin, il croisa Maxime, Rému et Camus. Tous trois virent l'étincelant éclat qui émanait de sa main. Maxime de la Croix, plus fasciné que les autres, voulait la dague. Anar, méfiant, la dissimula derrière son dos. Maxime brandit son glaive et se mit à crier comme si la prendre lui était soudain devenue vitale. Mais la grotte se mit à trembler de toutes parts, la voûte s'effondra. Maxime profita de la tragédie pour s'emparer de la dague, l'arrachant avec violence de la main d'Anar. Maxime exultait. Seul au monde, il percevait l'ébullition qu'engendrait la dague. Elle le submergeait, il s'imaginait, tel un dieu, détenir la toute-puissance. Il défiait Anar d'un rire sardonique. Il le laissa finalement à son sort, privilégiant sa propre sécurité. Ce Maxime est grisé par le pouvoir que lui confère la dague, mais engagé pour la rapporter à la reine Isabelle, il sait qu'on lui offrira la belle Léonia en mariage s'il remet l'objet entre les mains de sa souveraine. Pendant ce temps, rien ne va plus sur la terre ferme. La guerre gronde, le peuple est assailli par les impôts et se meurt. Mais la vénalité d'Isabelle et son ambition démesurée ne l'emporteront pas. Sa folie despote aura raison de sa vie. Et comme dans tout bon conte qui se respecte, l'histoire finit bien, même s'ils ne se marient pas et n'ont aucun enfant. On retrouve dans « À travers l'autre monde » toutes les thématiques modernes de la lutte des classes, de l'ambition expansionniste, de la loyauté et de l'amour et de l'idéalisme. Le premier roman de T.S. est en fait une projection de notre monde transposée sur fond médiéval. Un bon moment d'évasion.